Europe 1, balade en France. William Lémergie.
Demain, à partir de 11h, nous dormirons dans un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale. C'est à Saint-Pabu, dans le Finistère. Nous partirons ensuite dans les Landes pour descendre le courant Duché jusqu'à l'océan Atlantique. Alors à demain, 11h sur Europe 1, pour en savoir plus.
William Lémergie, dimanche 11h30, balade en France.
Vous êtes bien là, à profiter du buffet du petit déjeuner de votre hôtel Kyriade. Et vous vous rappelez que ce matin, c'est le fameux marché dont parlait Lisa, votre hôtelière Kyriade. Vous êtes vraiment bien là, avec toutes ces spécialités locales à goûter.
Prenez le temps de tout découvrir. Dès 3 nuits, profitez de moins 20% sur votre séjour dans votre hôtel Kyriade. Chacun de nos 250 hôtels Kyriade est une découverte. Offre soumise à conditions, modalités et réservations sur kyriade.com.
Notre livreur Prime Vidéo prend son couloir. Prise de vitesse foudroyante, tout en restant prudent, il gagne du terrain, pénètre dans la zone, plus que quelques mètres, et c'est livré! Vous aussi, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match PSG-OL en exclusivité sur Prime Video.
Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Les débats de panorama sur Europe 1 jusqu'à 20h comme tous les week-ends. Et cette question, la sobriété est-elle la clé de la sortie de crise? Je reçois Benjamin Brice, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de La sobriété gagnante, pouvoir d'achat, écologie, déficit, comment sortir de l'impasse? Bonsoir Michel Ruimi. Vous êtes économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris, à l'ESCP, directeur du think tank SPAC. Bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre.
D'abord, on va prendre un petit peu des... On va s'instruire avec vous. Comment est-ce qu'on peut définir la sobriété?
Alors, quelle que soit sa thématique, la sobriété, c'est l'idée de ne plus vivre au-dessus de nos moyens, à ne pas confondre avec la notion d'efficacité, cependant, qui se limite à l'évolution de nos habitudes du quotidien. Parce qu'on pourrait penser à tort, dans le cas qui nous a tous concernés de la sobriété énergétique cet hiver, qu'à notre échelle, faire acte de sobriété énergétique consistait par exemple à remplacer nos ampoules par des ampoules de basse consommation. Et non. La sobriété, c'est d'abord s'interroger sur les besoins réels d'un groupe pour le dimensionner correctement, avant d'ensuite améliorer vertueusement ses performances pour réduire son impact, comme vous l'écrivez dans votre livre, Benjamin Brice. La sobriété passe donc, selon le GIEC, par une baisse de la demande de matériaux, d'énergie, de sol, d'eau, de ressources naturelles, mais aussi, par exemple, de consommer moins, plus durable, de recycler ou encore de raisonner ses besoins de déplacement. Alors toujours selon son rapport 2022, il y aurait 5 moteurs pour faire acte de sobriété. Les individus consommant moins et mieux, la culture en faisant évoluer nos normes sociales et nos valeurs, les entreprises en modifiant leurs investissements, les institutions en repensant leurs actes politiques et les infrastructures en les améliorant.
Mais cette philosophie de la sobriété, elle n'est pas née d'hier.
Vous ne croyez pas si bien dire puisque ces notions existaient déjà dans la pensée grecque antique selon l'historien des techniques François Jarige. Mais au 19e siècle, la notion de sobriété devient synonyme de retard face au progrès technologique qui lui permet à l'époque, en tout cas c'est considéré comme tel, de simplifier la vie des gens. En 1979, après le choc pétrolier, la notion réapparaît avec la chasse au gaspillage initiée par Valéry Giscard d'Estaing.
Merci Capucine Patouillet. Benjamin Brice, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre? C'est quoi l'idée? C'est de nous sonner les cloches, de remettre les pendules à l'heure, de nous alerter? Êtes-vous une sorte de lanceur d'alerte?
Je ne suis pas certain. Disons que je ne suis pas du tout parti de la sobriété au départ. Mon point de départ, c'était de me demander qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en France en prenant toutes les contraintes économiques, géopolitiques, écologiques, sociales, etc., pour améliorer la situation, car s'il y a un consensus, c'est que la situation a plutôt tendance à se dégrader.
Mais votre premier diagnostic sur la situation, comme vous l'appelez, on peut appeler ça le merdier hein, aussi, parce qu'on est quand même dans une situation assez compliquée, quand on met tout bout à bout. Dans le diagnostic, ce qui est en haut de la pile, le dossier le plus grave, c'est lequel?
Ah, je crois que tous les dossiers sont extrêmement graves, c'est-à-dire que...
Parce que selon ce qu'on interroge les écologistes, ouais. On vous dit c'est la lutte contre le réchauffement climatique et 2050 les objectifs. Si vous interrogez les économistes, et on va voir ce qu'en pense M. Ruimi, c'est la dette, etc. Donc chacun a un objectif... Différent.
C'est tout à fait vrai, mais ce qui est extraordinaire avec la sobriété, et ce que je crois l'on ne voit pas assez dans le débat public, c'est que ça peut réunir en tout cas un certain nombre de ces objectifs. La sobriété matérielle, qu'est-ce que c'est? C'est consommer, avoir une consommation matérielle inférieure. Mais ça veut dire quoi ? D'un point de vue géopolitique, c'est plus de résilience vis-à-vis du reste du monde. D'un point de vue écologique, c'est moins d'impact sur la biodiversité, sur le changement climatique, etc. D'un point de vue économique, c'est moins de déficit commercial parce que la plupart de notre empreinte matérielle est en fait importée sous forme de combustibles fossiles ou sous forme de produits industriels. Et donc, économiquement, plus d'argent pour pouvoir mettre, par exemple, dans les services publics ou dans d'autres choses. Donc, c'est-à-dire que nos différents problèmes peuvent être abordés sous l'angle de la sobriété pour permettre d'y répondre de manière cohérente et, je crois, d'une manière plus crédible que ce qui est fait aujourd'hui.
Michel Ruimi, est-ce que cette sobriété s'apparente à ce qu'on a appelé les politiques d'austérité ?
Non, la politique d'austérité...
Ah, je crois que vous avez un micro qui ne marche pas. Oui, la politique d'austérité.
La politique d'austérité, c'est le fait de réduire concrètement les moyens mis en œuvre pour faire... faire que l'économie se passe pour le mieux. Ça veut dire moins de moyens publics, réduire un peu les plans de politique de relance. Mais sur l'idée de la sobriété, je pense que la question, à mon sens, qui doit être posée, c'est de savoir si l'économie française est capable d'ingérer plus ou moins un peu plus ou moins de sobriété sans s'effondrer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la situation de l'économie française n'est pas extraordinaire. On a un endettement public important. Oui, non, mais il y a d'autres éléments. Il y a un endettement public, il y a une croissance qui est faible, il y a un déficit commercial, il y a une inflation qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'a pas l'instrument, on l'a délégué à la BCE, et puis on a un chômage. Donc la situation n'est pas mirifique. Et donc la question
chômage, ça va mieux.
Oui, on va dire. Mais il y a encore du travail à faire.
Mais il y a un chômage structurel qui n'est pas endigué.
Tout à fait. Et donc l'idée de Benjamin est très séduisante, mais l'idée c'est est-ce que justement on a les moyens ? Et donc l'économie française a la capacité d'ingérer cela. Et donc qu'est-ce que ça nécessite ? C'est ce processus risque d'être long. Ça nécessite, quels seraient les facteurs de clés de succès ? C'est un consensus, un nouveau contrat social qui aboutit à un consensus, c'est-à-dire que quels que soient les horizons politiques, on soit d'accord. Deuxième chose également, c'est que il faudrait mettre une hiérarchie des objectifs, telle manière que...
C'est pour ça que je posais la question de savoir quel était le dossier le plus urgent.
Voilà. Et après, ça demande d'avoir une hiérarchie dans les objectifs, telle manière que on s'éparpille pas. Et puis troisième chose, il y a aussi l'exemplarité, on va dire, des gouvernements au sens large.
Je vous demandais si c'était une bonne solution, l'austérité versus la sobriété, puisque s'il y en a un qui a réussi, c'est Gerhard Schröder avec sa politique d'austérité en Allemagne. On avait un candidat qui n'a pas été élu à la présidence de la République en 2016-2017, c'était François Fillon. On savait très bien que son programme était un programme d'austérité. Est-ce que vous-même, Benjamin Brice, vous avez, tiqué sur le titre en hésitant entre sobriété et austérité ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Parce que justement, j'ai plusieurs chapitres là-dessus dans le livre. Je crois que les politiques d'austérité, nous en avons eu depuis une quinzaine d'années. Si on prend les dépenses de fonctionnement dans le PIB, entre aujourd'hui et 1980, elles n'ont pas augmenté. C'est-à-dire le salaire des fonctionnaires et tout ce dont ils ont besoin pour travailler n'a pas augmenté en 40 ans, c'est-à-dire avant l'arrivée de François Mitterrand. Il faut savoir qu'entre-temps, la population a vieilli, donc plus de besoins pour l'hôpital public, et nous avons voulu mettre 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, donc plus de besoins dans l'enseignement. Comment ça s'est traduit ? Par des politiques d'austérité, c'est-à-dire moins de recrutement de fonctionnaires dans certains domaines, c'est-à-dire des salaires qui décrochent par rapport aux salaires du privé, et moins d'emprise sur le territoire, fermeture de maternité, fermeture de différentes antennes, etc. Donc les politiques d'austérité, c'est une réalité que les faits montrent très bien. Ce que j'essaye de dire, c'est que si on faisait de la sobriété matérielle, notamment sur la consommation importée, qui permettrait de relocaliser du déficit commercial, ça nous permettrait d'avoir plus d'argent dans l'économie française, donc plus de recettes fiscales, et de pouvoir réorienter cet argent vers l'investissement et notamment vers les services publics. Et quand on entend effectivement, le mot sobriété peut faire peur au niveau macroéconomique, mais prenons un exemple pour être plus concret. Aujourd'hui, les importations d'ordinateurs et de téléphones en France, c'est 20 milliards de déficit public. De déficit commercial chaque année. 20 milliards, c'est énorme. On n'a aucun intérêt à avoir ce déficit parce qu'on n'a aucune production de ces biens. Moins consommer ces biens, par exemple, avec des garanties plus longues, avec une certaine régulation de
sur les smartphones maintenant, il y a beaucoup plus de reconditionnement.
Bien sûr. Mettre en avant le reconditionné, etc. Nous avons tout intérêt collectivement à avoir de la vraie sobriété sur ces produits informatiques. Mmh. D'un point de vue écologique, on en parle beaucoup, mais d'un point de vue commercial, d'un point de vue de résilience, et ça n'a pas d'effet négatif pour l'économie française. Donc là, par exemple, c'est un exemple simple où je crois que nous aurions intérêt à aller beaucoup plus loin dans cette direction pour allonger la durée de vie de nos équipements et donc réduire le déficit commercial.
Même si, comme le rappelait Capucine, la notion de sobriété devient dans ce cas-là synonyme de retard technologique, puisque si vous avez comme moi un iPhone 7, voyez, qui a été, dont j'ai changé la batterie puis ensuite l'écran versus un iPhone 14, évidemment, il n'a pas les mêmes performances que le dernier iPhone. Voilà, Michel Ruimi.
Oui, mais le fait de changer son mode de consommation nécessite en même temps et c'est là qui est très important, c'est une réforme un peu du marché du travail. Dans une certaine mesure, c'est la formation. La relocalisation ne veut pas dire la totalité, on va dire, du travail qui se trouve en France. Ça veut dire que, comme on a beaucoup délocalisé, il faut refaire tout le chemin inverse, c'est-à-dire commencer à former, donc ça demande du temps. Deuxième chose également, il faut éduquer la population, il ne faut pas que ça soit, on va dire, très orienté, très autoritaire, il faut orienter, c'est-à-dire notamment de dire, voilà, si on continue sans sobriété, voilà ce auquel on arrive, et voici les gains. Mais ça veut dire en même temps, quand je dis le marché du travail...
Vous dites ça, en tout cas, justement, une partie des écologistes qui disent, qui essayent d'éduquer, ils ont l'impression d'être, pardonnez-moi l'expression, de m'épicer dans un violon depuis 50 ans. Donc,
Mais l'idée, c'est, quand je dis éduquer, ça veut dire aussi, par exemple, c'est au-delà de, on va dire, d'avoir une éducation civique, mais en même temps aussi, quand je dis la réforme du marché du travail, travailler moins, mais le gain de temps qu'on aurait fait pour sensibiliser les personnes à travailler et à produire eux-mêmes des produits nationaux, et afin de réduire le déficit commercial. Ça nécessite, bien sûr, ça ne se fera pas, ça, à mon sens, va être générationnel, ça veut dire que concrètement, ça mettra peut-être une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mais c'est nécessaire parce qu'on n'a plus les moyens.
Oui, on n'a plus les moyens. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les impôts de production, et vous savez que ça freine quand même beaucoup d'entreprises pour pouvoir se dire, tiens, on va tenter le coup. Aujourd'hui, on a une usine de batterie, notamment en France, pour pallier justement le fait qu'on achète toutes les batteries dans les pays asiatiques. Bon, c'est David contre Goliath, là, ce qui est en train de se passer, même si on doit paradoxalement encourager cette production française.
Tout à fait, mais c'est là la difficulté, c'est qu'il faut repenser, il faut bien se rendre compte que l'État ne pourra plus, l'expédient de l'État pour faciliter la consommation, c'est à court terme, ça peut plus durer. Donc l'idée, c'est qu'il faut repenser le modèle, et la réflexion de Benjamin s'inscrit dans un processus large, on va dire, de réflexion, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a aussi des conditions de réussite et qui doivent être mises en place.
Benjamin Brice, est-ce qu'on a trop tendance à régler, j'allais dire, les affaires courantes et pas voir les dossiers de fond en se disant, oui, ça va prendre 20 ans, mais il faut le faire?
Ça, sans doute, et c'est, je veux dire, un des problèmes de nos politiques, c'est peut-être la question du long terme, quoique. Mais moi, ce qui me semble marquant, c'est le problème d'orientation générale. C'est-à-dire, vous parlez des impôts de production, on a baissé le coût du travail, maintenant on veut baisser les impôts de production pour une course où on sera de toute façon perdant parce qu'on n'arrivera jamais au coût du travail de la Chine ou d'autres pays. Il y a un moment... Ça fait, disons, au moins 15 ans.
Les impôts de production et le coût du travail sont deux choses différentes, hein, on est d'accord.
Ah, la baisse des impôts de production, c'est pour baisser le coût du travail au final.
Oui, non, mais
c'est
bien sûr.
C'est
une
question de compétitivité coût. Mais ce que
très
je veux
bien,
dire,
si vous le prenez comme ça,
c'est que ces baisses, elles ont un coût pour la collectivité. Les exonérations de cotisations sociales, c'est à peu près 70 milliards aujourd'hui. Ces 70 milliards, il faut les financer quelque part. Et en fait, on les finance par des impôts, on les finance par des politiques d'austérité, etc. Et on se retrouve dans quelque chose sans fin, c'est-à-dire qu'à force de mettre pas assez d'argent dans l'éducation, on a un déclassement de l'éducation au niveau de l'OCDE, etc.
Donc vous voudriez relocaliser, mais sans forcément baisser les impôts de production?
Bien sûr, il faut sortir de la logique où la compétitivité se fait sur le coût. Il y a un moment... au lieu de regarder en permanence la question des exportations, la question de la production, etc., regardons la question de la consommation. Pourquoi est-ce que le déficit commercial atteint des records chaque année? Si on prend le déficit commercial hors énergie, donc le déficit manufacturier, nous battons des records chaque année, là, depuis 2017, ce qui est quand même inquiétant, étant donné les politiques de compétitivité qui sont menées. Pourquoi? Les exportations augmentent, nous arrivons à exporter de plus en plus, mais les importations, elles, augmentent encore plus. C'est-à-dire que nous perdons nos industries de base et les consommateurs continuent à consommer de plus en plus et de plus en plus de produits importés. Il y a un moment, il faut qu'on change la focale et regarder les importations. C'est les importations sur lesquelles il faut travailler. On y a intérêt d'un côté économique, mais on y a aussi intérêt d'un côté écologique, car produire local émet moins de gaz à effet de serre et a moins d'impact sur la biodiversité de fait des normes environnementales, et nous permet plus de résilience dans un monde qui, quand même, nous nous en rendons compte, va être de plus en plus dangereux avec des tensions internationales de plus en plus importantes.
Donc, vous avez pris une feuille de papier et vous avez fait une colonne en disant voilà ce qu'on peut relocaliser et voilà ce qu'on ne peut pas relocaliser. Et ce qu'on ne peut pas relocaliser, il faut consommer moins, tout simplement.
Ah, même sur la relocalisation, il va falloir consommer moins. Qu'est-ce que nous a permis la délocalisation et notamment la délocalisation de la production en Chine? De consommer plus en volume des produits moins chers. La relocalisation, il faut le dire et il ne faut pas s'en cacher, c'est un coût des produits plus élevé. Mmh. Le textile, par exemple, en délocalisant le textile, ça nous permet de consommer plus de textile de piètre qualité. Mais le problème, c'est que le textile produit en Chine, un kilo de textile émet deux fois plus de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, il y a le déficit commercial de plus de 10 milliards pour le textile. Relocaliser du textile, c'est accepter ou en tout cas faire en sorte, avec un travail sur les normes, un travail sur la publicité, un travail sur les exemples, etc., pour consommer en volume moins de textile.
Michel Rumi.
Je dirais que Benjamin soulève deux problèmes. Et deux niveaux de résorption. On voit les normes environnementales, c'est un problème mondial. Donc il faudrait, on va dire, une solution mondiale. Le fait d'importation et de relocalisation, c'est un autre problème. La question qui se pose, c'est que la relocalisation, c'est une bonne choix, mais à défaut, comme on n'a pas les compétences et les qualifications pour l'ensemble des produits que l'on pourrait relocaliser, il faudra envisager une relocalisation européenne. Notamment dans la mesure où la majeure partie de la valeur ajoutée créée serait sur le territoire national. Et puis, on va dire, les tâches les moins valorisantes seraient, on va dire, diffusées au niveau européen, puisqu'on n'a pas de politique sociale européenne. Donc, dans un certain côté, ça nécessite une relocalisation des produits que nous sommes en capacité à reproduire et éventuellement à partager avec nos partenaires européens. Au niveau de l'environnement, je ne conteste pas qu'il y a le textile, mais ça pose un problème, c'est que est-ce que les Français sont prêts à payer plus cher? Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on va retomber après sur une thématique qui est d'actualité, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Et qui dit pouvoir d'achat, ça veut dire donner un peu plus, soit de salaire, mais là, on retombe sur la problématique de la compétitivité, c'est-à-dire que si les entreprises élèvent le coût salarial, ça fait moins compétitif. Donc l'idée est qu'il y aura peut-être, à ce moment-là, encore un accompagnement dans la consommation, un accompagnement de l'État dans la consommation. Et donc, on revient toujours, ça va repasser par l'endettement. Et donc, c'est ce triangle plus ou moins d'incompatibilité qu'il faudra gérer. C'est-à-dire...
Ou changer de modèle économique, c'est ce que propose Benjamin Brice.
Tout à fait, mais le grand problème, nous sommes insérés j'aime pas le terme compétition, mais dans une concurrence internationale. C'est-à-dire que, certes...
Avec des agences de notation...
Voilà,
des...
mais ce qui risque de se passer, c'est que M. Mitterrand, en 81, il a changé, il a été élu sur un programme, mais en 83, il a fait le programme de la rigueur. Donc, ce qui serait bien, c'est d'éviter de faire la même problématique, d'avoir le même problème, de devoir après revenir à des sanctions, on va dire à des opérations plus difficiles. Donc, c'est pour cela que la transition, et c'est pendant cette vingtaine d'années, pour moi, nécessite une transition, mais consensuelle.
Vous êtes à deux doigts, Michel Rumi, de taxer Benjamin Brice d'idéaliste.
Non, on en a besoin. Le problème, c'est...
Le demi-aveu.
Ce que je veux dire, c'est que je considère qu'il participe à la réflexion, et sa réflexion est pertinente. Simplement maintenant, c'est la mise en traduction qui va poser problème, dans la mesure où il y a après... un problème de financement alors, dans la transition.
Justement, le
tournant de la rigueur de 83, qu'est-ce que c'est ? C'est le déficit manufacturier, enfin l'excédent manufacturier a baissé. Parce qu'il faut savoir que le déficit manufacturier aujourd'hui est infiniment plus grand en part du PIB qu'il l'était au moment du tournant de la rigueur en 82. Mais nous sommes dans une situation bien plus catastrophique. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ça ? Parce qu'il y a une politique de relance de la consommation avec une relance des importations, notamment des importations japonaises à l'époque. Une politique de sobriété, c'est le contraire. C'est justement baisser les importations. L'objectif, c'est de se focaliser sur les importations.
Avec quoi ? Avec des quotas ? Avec des...
Tous les instruments sont possibles. Mais déjà, des instruments de bon sens ne sont pas... Il y a quand même des instruments de bon sens qui ne sont même pas mis en place. C'est-à-dire étiquetage systématique des produits. Mmh. Quand on veut essayer de faire un effort pour consommer local, etc., il est souvent difficile de s'y retrouver. Il y a des efforts qui vont être demandés aux classes supérieures, parce qu'aujourd'hui, c'est les classes supérieures qui ont l'empreinte carbone la plus importante de toute la consommation. Et il y a des moments, il va falloir, bien sûr, des politiques de réglementation, des politiques sur la publicité. Et il y a tout un domaine, qu'on active très peu. Ce sont les achats publics. Les achats publics, c'est 20% des achats quand même de la consommation intérieure.
Si vous mettez en place des quotas, par exemple, vous savez très bien qu'après, ça, c'est un effet de domino. Il y a des politiques diplomatiques qui risquent d'être perturbées.
C'est
d'ailleurs, vous avez un voyage du président Macron la semaine qui arrive en Chine. Justement, ces sujets-là vont être évoqués.
Non, mais les quotas comme ça, de toute façon, au niveau européen, ce n'est pas possible aujourd'hui.
J'en parle parce qu'on en avait parlé au milieu des années 80, justement avec les importations japonaises dont vous parlez.
Mais si vous reprenez les ordinateurs et les téléphones, je veux dire, on a des moyens aujourd'hui, avec le reconditionnement, avec la réparation, etc.,
on en a parlé.
De réduire réellement notre déficit.
Il y a un sujet important que vous abordez dans votre livre, Benjamin Brie, c'est la revalorisation du travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la valeur du travail avec la réforme des retraites. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quel est votre diagnostic ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ?
Sur la revalorisation du travail, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on parle à chaque fois de revalorisation du travail, mais dans une optique de compétitivité-coût. Mmh. C'est-à-dire que la revalorisation du travail se traduit par plus de flexibilité, exonération de charges sociales, c'est-à-dire des gens de plus en plus dépendants des transferts sociaux. La prime d'activité, c'est ça. La prime d'activité, c'est au lieu d'augmenter les salaires, eh bien, il y a des transferts sociaux qui viennent de l'État. Donc la revalorisation du travail n'est pas vraiment là. Et de l'autre côté, il y a le bâton. Le bâton, c'est quoi ? C'est une remise en cause des allocations chômage, ou en tout cas un accès plus difficile. Il va y avoir la même chose sans doute pour le RSA. C'est-à-dire que la valorisation du travail, c'est la dévalorisation des gens qui ne travaillent pas. On parlait du chômage tout à l'heure. Les chiffres du chômage, si on prend juste le chômage, c'est plutôt pas mal. Mais si on rajoute le halo du chômage et le sous-emploi, on est à des niveaux qui sont encore massifs. On est à 5,4 millions de personnes aujourd'hui touchées d'une manière ou d'une autre. Et ça, je suis désolé, mais la relocalisation est une manière aussi de recréer des emplois sur le territoire, c'est-à-dire en dehors des métropoles, et donc de prendre le contre-pied de ce que l'on a fait dans les dernières décennies.
Et là, vous abordez, par ce prisme de la revalorisation du travail et de ce qui se passe, le sujet de la fracture qu'il peut y avoir entre une population d'un côté de classe moyenne qui devient de plus en plus moyenne, et une classe de riches qui deviennent de plus en plus riches. Ce n'est pas encore le cas en France, mais c'est par exemple ce qui se produit de manière très très silencieuse aux États-Unis. Et beaucoup d'observateurs, de lanceurs d'alerte, se disent que bientôt, il y aura peut-être pas une guerre civile, mais Michel Rumi, on a cette fracture qui est très très inquiétante aux États-Unis.
Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis. J'attire votre attention, c'est que les crises ont tendance à accroître les inégalités. Les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres, et la classe moyenne tend à se dissoudre.
Donc, les révolutions aussi, d'ailleurs.
Oui. Mm. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit en Grande-Bretagne, on voit en Allemagne, on voit partout de la grogne sociale. Pour l'instant, elle est très, on va dire, localisée, mais à supposer que ça devienne à être diffus, ça risque de remettre en place, en Europe, du moins, une cause d'instabilité. Et qu'est-ce qu'il faut y voir ? C'est qu'en fait, et c'est ça qui convient de voir, c'est que dans les années 80, on a mis notamment un capitalisme en place, qui était le capitalisme financier patrimonial, qui était privilégié la valeur actionnariale, c'est-à-dire les actionnaires. Et comment réduire de façon simple et satisfaire les actionnaires ? Le salaire a été le paramètre d'ajustement. Quand je dis c'est la masse salariale, aussi bien par licenciement ou par réduction du coût. Et en fait, on s'aperçoit que ça a amené de gros dysfonctionnements et dont on a vu aujourd'hui parce que ça, et on est rentré en France dans une logique où on voulait faire une politique industrielle sans usine. Donc c'est peut-être très bien, mais le grand problème, on a perdu notre savoir-faire. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et c'est là où il y a un petit hiatus pour moi, c'est que le fait de remettre en place ce qu'on a perdu va prendre du temps. Et donc, ça nécessite un consensus pour moi.
Benjamin Brice dit il faut prendre le temps, tant pis.
Ah oui, ah, non, mais c'est ça. Je suis d'accord, mais est-ce que pour longtemps, est-ce que les Français sont d'accord ?
Est-ce qu'il y a un consensus ? Vous avez peur de la douche froide quelques années plus tard. Voilà. Oui, on a compris. Benjamin Brice.
Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'impulsion politique pour aller dans cette direction-là. Moi, je pense que le verrou, pour l'instant, il est là.
Mais bien sûr, vous dites politique, mais même sociétal. Regardez, aujourd'hui, on vit à l'ère du tout venant, ça on l'a dit. On vit à l'ère de Netflix, on vit à l'ère de la consommation. Comment est-ce que vous voulez, j'allais dire, changer le logiciel des gens partout dans le monde pour dire, attendez, vous savez quoi ? Regardons les pays frugaux, ne serait-ce qu'en Europe. On sait très bien qu'ils se portent beaucoup mieux que les pays du Sud quand vous regardez les 27 pays de l'Union européenne. Faisons comme eux et on ira mieux. C'est difficile de changer le logiciel des gens.
Ah mais bien sûr que c'est difficile. Là, je ne parle pas au niveau mondial, mais disons au niveau français. Mais quand les enquêtes d'opinion montrent que les gens, ne serait-ce que pour la question écologique, ont conscience que nous vivons au-dessus de nos moyens à l'échelle... Je veux dire, les gens en ont conscience. Et la deuxième chose, le deuxième levier, c'est que ça fait quand même un bout de temps qu'il y a une dissociation, une divergence de plus en plus importante entre la masse de la population et les politiques économiques qui sont menées dans le pays. Il y a une grande impopularité des politiques de compétitivité dans le pays, mais également d'adaptation à la mondialisation, d'intégration à l'Union européenne, etc. Ça s'est vu dès le traité de Maastricht où les employés et les ouvriers ont voté contre, le référendum de 2005. Et depuis, on voit bien que le soutien au président de la République, que ce soit François Hollande, Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy, est quand même très minoritaire dans le pays. Il n'y a pas d'alternative qui se dessine tout à fait crédible, et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, mais il est clair que les politiques menées actuellement sont tout à fait impopulaires dans le pays.
Michel Rumi.
Je peux qu'acquiescer. La mesure est que, justement, c'est que la problématique est là. Mais le gros problème, c'est que le temps économique, le temps écologique et le temps politique est totalement différent. Le temps politique, il est à court terme, 5 ans. Donc, si j'ai envie de me faire réélire, il faut que je fasse des mesures là-dessus. Alors que
faut contenter rapidement, faire entendre aux gens ce qu'ils veulent entendre.
Et la question est que si je veux réformer en profondeur, il faut... Vu les dégâts qui ont été faits par près de 40 ans, on va dire, de capitalisme, on va dire, patrimonial, il convient aussi de prendre le temps de remettre la machine en ordre. Et c'est ce qui pose problème, ça nécessite aussi un consensus. Mais pour l'instant, ça va nécessiter, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de personnes en difficulté.
Merci beaucoup Michel Rumi, merci à vous Benjamin Brice.
Merci.
Faites-vous une idée en lisant ce livre, que je précise a été publié à compte d'auteur, donc vous aviez vraiment un message à dire. Vous avez pris sur vous et sur votre argent justement pour le publier, La sobriété gagnante. On le trouve où d'ailleurs ce livre, un peu partout?
On peut le trouver dans toutes les librairies et sur toutes les plateformes en ligne.
Merci beaucoup. À vous demain pour l'information des 6h, Lénaïque Monnier. Mais tout de suite, c'est le sport.